Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Le voilà donc, le premier grand test social pour Emmanuel Macron et le gouvernement, la mobilisation contre la nouvelle loi travail. Plusieurs syndicats, au premier rang desquels la CGT Solidaire, appellent à manifester demain et à faire grève. L'objectif, obtenir le retrait des ordonnances qui réforment le code du travail. D'après un sondage pour l'Institut IFOP, le mouvement de contestation recueillerait l'approbation de plus de la moitié des personnes interrogées. On verra demain de quelle manière cette approbation se traduit dans les cortèges. Alors voilà maintenant une dizaine de jours que les ordonnances sont connues. Elles ont été présentées aux partenaires sociaux, puis à la presse, le 31 août dernier. Et sur la première page du document du ministère du Travail qui en fait la synthèse, on peut lire en gros titre, en guise de résumé de la philosophie du projet, « Renforcement du dialogue social ». Le contenu des ordonnances modifie en effet l'exercice de ce dialogue, notamment pour les petites et moyennes entreprises. Mais s'agit-il d'un renforcement ou d'un affaiblissement? La nouvelle loi travail fait-elle du bien au dialogue social? C'est autour de cette question que nous allons passer les 40 prochaines minutes, en compagnie ce soir de deux invités. Anne de Haro, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes déléguée syndicale CGT chez Wolters Kluwer France, qui est un éditeur d'ouvrages professionnels, qui édite notamment le Code du travail. Vous êtes par ailleurs conseillère prud'homale, juriste en droit social, secrétaire du CHSCT de votre entreprise. Pour discuter avec vous, Jean-Charles Simon, bonsoir.
Bonsoir.
Économiste, ancien directeur général délégué du MEDEF. Vous dirigez l'entreprise Stassian, qui est une entreprise d'analyse de données. Vous étiez venu il y a quelques mois de cela pour nous parler d'une note que vous aviez publiée pour l'Institut de l'entreprise, dans laquelle vous vous demandiez s'il fallait que le paritarisme à la française ait encore un avenir. Ce n'était pas exactement le titre, mais enfin, en tout cas, c'était ça l'idée. Et puis, on peut également vous lire sur votre blog, sur latribune.fr, et notamment votre dernier article, en tout cas celui qui est consacré à cette réforme du droit du travail, encore raté, c'est le titre que vous avez choisi. Alors, avec vous de ce soir, nous allons parler donc de ces ordonnances, en particulier de celles qui ont trait au dialogue social. Et je vous propose peut-être d'en examiner quelques-unes pour après essayer d'en tirer peut-être une philosophie un petit peu plus large. Et je voudrais commencer, Anne de Haro, puisque vous êtes donc secrétaire du CHSCT de votre entreprise, par évoquer cette fusion des délégués du personnel, du comité d'entreprise et du CHSCT dans une instance nouvelle qui va s'appeler le comité social et économique, qui concernera les entreprises de plus de 50 salariés, si j'ai bien lu les ordonnances. Qu'est-ce que vous pensez de cette fusion-là qui est mise en place au nom de l'efficacité, de la simplification, disons, des rapports au sein de l'entreprise?
Bon, tout d'abord, en matière de dès qu'on parle de simplification du droit du travail, généralement, on n'a pas des simplifications, on a plutôt des complications. Alors, on avait déjà réformé un petit peu et on avait déjà simplifié les IRP en créant la possibilité de faire ce qu'on appelle des dupes.
Alors, IRP, instance représentative du personnel.
Institution représentative du personnel. DUP, c'était la...
Délégation
unique du personnel, pardon. Et donc, on avait déjà la possibilité, si on trouvait un accord, d'instaurer ce genre de mécanisme. Là, ce qui est nouveau, c'est que c'est la brutalité du texte. Là, on va se retrouver avec une fusion pour toutes les entreprises où existent des délégués du personnel, où existe un comité d'entreprise et où existe un comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail. Alors, on avait ces trois instances qui s'étaient créées au fil des ans et qui permettaient d'appréhender toutes les problématiques de droit du travail et toutes les problématiques que rencontrent les salariés quand ils sont dans l'entreprise. Et ça permettait un partage des tâches et des rôles.
Ce que dit le gouvernement, c'est que les compétences et les prérogatives de ces différentes instances vont être préservées malgré la fusion.
Alors, oui, elles vont peut-être être préservées, mais moi j'ai vraiment une inquiétude. Par exemple, quand je lis dans l'ordonnance qui prévoit la fusion et la disparition du CHSCT et son remplacement par une commission qui sera intégré dans le comité social et économique, quand je lis que, par exemple, cette instance ne sera obligatoire que pour les entreprises en deçà de 300 salariés, où il y a un risque Céveso, c'est-à-dire un classement particulier, ou un risque nucléaire. Alors, par exemple, c'est tout bête, mais une entreprise de moins de 300 salariés, pardon, qui travaille dans une aciérie, par exemple, qui a du métal en fusion, ne sera pas soumise à l'obligation d'avoir une commission hygiène et sécurité.
Donc il y a une crainte de votre côté, disons, de dilution d'un certain nombre de prérogatives qui existent encore jusqu'à présent, hein, puisque ces ordonnances n'ont pas encore force de loi. Jean-Charles Simon, qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette fusion des instances représentatives du personnel ?
Oui, je crois que plus qu'une fusion, c'est une addition d'instances qui resteront finalement juxtaposées au sein d'un même ensemble, sans réel changement finalement dans la vie de l'entreprise. L'objectif, c'est en effet probablement de se faire superposer un certain nombre d'échanges, de consultations qui auparavant devaient être cumulées. Mais finalement, on va se retrouver très probablement, même s'il y a des textes réglementaires qui vont devoir le préciser, avec des instances qui auront non seulement les mêmes prérogatives, mais aussi les mêmes moyens.
Est-ce que ça peut faciliter la vie des chefs d'entreprise d'avoir moins d'interlocuteurs, donc peut-être déjà de perdre moins de temps ? Je dis perdre du temps. J'imagine que Anne de Haron ne va pas être tout à fait d'accord avec cette façon d'aborder les choses, mais en tout cas, c'est ce qu'on peut lire justement du côté des organisations patronales, c'est-à-dire en tout cas, voilà, de moins diluer le temps en regroupant justement les interlocuteurs.
Oui, c'est un peu l'idée de dire, voilà, en n'ayant qu'une instance, on va donc simplifier notamment les chemins de discussion, d'information, de consultation. Je pense que sur le fond, ça ne va pas changer les choses à partir du moment où, encore une fois, les moyens seront les mêmes. Donc, pour un certain nombre d'entreprises, ça reste quelque chose d'assez complexe à gérer, parce que quand on n'est pas une grande entreprise, que parfois on n'a même pas de direction des ressources humaines, hein, parfois c'est le chef d'entreprise qui fait ça tout seul dans beaucoup d'entreprises de taille petite ou moyenne, et bien finalement on va ne pas avoir de vraie simplification.
Est-ce que je dois entendre dans ce que vous dites que vous auriez souhaité autre chose en la matière ?
Je pense qu'il faudrait voir, pour le coup, notamment pour les entreprises qui sont, mettons, parce qu'on commence là en matière obligatoire à partir de 50 salariés à avoir le CSE, même si on pourra l'avoir en dessous.
Comité social et économique.
Je pense qu'on aurait pu avoir en effet quelque chose de beaucoup plus simplifié sur le fond de ce que va faire l'instance. Parce que le problème, c'est pas tellement le nombre d'instances, c'est qu'est-ce qu'elles font et quelles sont les obligations, les figures imposées pour l'employeur.
Andaro.
Alors, si simplifier, c'est saboter et ne plus permettre qu'on s'occupe de la santé des salariés, alors que on continue d'avoir plus de 400 accidents mortels par an. Les maladies professionnelles sont en augmentation. Les cadres, par exemple, bon, je suis à l'UGICT, hein, je m'occupe beaucoup des questions des cadres, évidemment.
Parce que l'UGICT, c'est la branche cadre de la CGT.
Voilà. Bon, il y a de plus en plus de... On parle de burn-out. Bon, il y a de plus en plus de problématiques spécifiques de risques qui doivent être traités par les comités, par les CHSCT. Et là, on est en train de nous priver de moyens et on est en train de simplifier en amalgamant. Or, je suis désolée, travailler sur les conditions de travail, c'est quelque chose qui doit être examiné, mais aussi dans l'intérêt de l'employeur, parce que l'employeur... il a une responsabilité.
Mais vous voulez dire qu'on ne peut pas être indifféremment secrétaire du CHSCT, délégué du personnel ou membre du comité d'entreprise ? On ne peut pas occuper ces trois fonctions ? Ça demande quoi ? Des compétences très spécifiques qu'on ne peut pas assumer en même temps ?
Alors, il faut savoir ce qu'on veut. Moi, j'ai occupé, au cours de ma carrière de mandaté, j'ai occupé toutes ces fonctions.
Bon. Donc vous pouvez rejoindre ce fameux CSE.
Mais j'ai la chance d'avoir fait des études de droit social qui m'ont permis d'avoir une formation initiale. Donc déjà, comment sont formés les gens, ces gens absolument merveilleux qui vont pouvoir se préoccuper de tout. Des questions économiques, c'est-à-dire savoir analyser les bilans des entreprises, savoir regarder précisément les bilans comptables, et je vous assure que c'est pas toujours simple, comprendre les process de travail, savoir analyser les relations de travail, comprendre les questions des salariés et les questions très fines et très juridiques d'application des conventions collectives, par exemple. Et on va faire peser ça sur les mêmes personnes. Mais ce sont des êtres magiques qu'on va chercher là. Ça n'existe pas, des gens qui peuvent cumuler autant de compétences. Et mon contradicteur l'a dit, nous n'avons pas encore les décrets d'application. Ça veut dire que là, le mécanisme même d'adoption des ordonnances fait que nous sommes dans le brouillard, nous ne savons pas quels sont les moyens, c'est-à-dire les ordres de délégation et le nombre de délégués que nous aurons.
Ces êtres magiques, Jean-Charles Simon.
On comprend que la volonté du gouvernement, et on voit bien que c'est un point évidemment important avec les centrales syndicales, mais qui va faire en sorte de rester dans le statu quo. C'est-à-dire qu'on aura en fait une juxtaposition des élus existants, donc autant d'élus qu'avant, et autant d'heures de délégation au total qu'avant dans l'entreprise. Alors je ne dis pas que c'est un problème, en soi je trouve tout à fait légitime que les élus aient évidemment des heures de délégation nécessaires à remplir leur fonction. Mais si vous voulez, je pense qu'encore une fois, pour les entreprises, aller de 50 à 200, 300 salariés, ça peut être très difficile à gérer. Même s'ils reconnaissent qu'en effet, ça peut correspondre à leur intérêt d'avoir une instance compétente, qualifiée, qui a le temps et les moyens de discuter avec eux, ça peut être très compliqué à gérer. Et les risques de commettre une erreur, de ne pas convoquer à temps, de ne pas informer comme il faudrait, restent très importants. Si vous laissez ça, ou sur le fond, pour moi, la simplification n'est pas là. Et par rapport au conseil d'établissement allemand, puisque c'est parfois la référence, le Betriebsrat qui a des pouvoirs en Allemagne assez importants. Ce que je regrette surtout, si vous voulez, c'est qu'il n'y ait pas le pouvoir de négociation sur un nombre de points importants qui va rester la prérogative des délégués syndicaux dans les entreprises de plus de 50 salariés, alors même qu'on aurait pu avoir quelque chose de plus intéressant encore si vraiment le CSE avait été en capacité, dans la loi, de discuter, d'échanger sur la norme collective dans l'entreprise.
Sauf que si j'ai bien lu, il peut y avoir par accord majoritaire la possibilité de fusionner dans ce CSE les délégués syndicaux pour y créer un conseil d'entreprise qui aurait compétence, donc du coup sur la négociation, et qui renverrait justement vers ce modèle de cogestion allemande pour un modèle de cogestion à la française.
Encore faudrait-il que les délégués syndicaux, qui seront donc ceux qui seront appelés à négocier, acceptent eux-mêmes de se fusionner dans le CSE. Donc c'est ça, il y a une limite importante dans les ordonnances.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette possibilité-là, Anne de Haro?
Alors,
là, on aurait une superstructure qui serait en même temps, alors qui serait peut-être très concentrée, qui demanderait des compétences très très forte, mais qui en même temps aurait un pouvoir assez grand au sein de l'entreprise. Alors qui permettrait de peser. Non, plus on concentre les pouvoirs, plus on a de pouvoir.
Non, la façon de peser dans l'entreprise, c'est d'avoir un rapport de force favorable, d'avoir une bonne compréhension, une bonne information sur la stratégie et les éléments économiques et financiers de l'entreprise. Ce qu'on a de moins en moins, en tout cas, c'est de plus en plus difficile d'avoir des informations précises. Et puis il y a quand même quelque chose. On est un petit peu en train de jeter le bébé avec l'eau du bain. Je rappelle quand même que les organisations syndicales, elles ont comme rôle dans l'entreprise, et on est dans l'entreprise depuis 1968, de faire du syndicalisme dans l'entreprise. On n'est pas uniquement à disposition des employeurs pour répondre au calendrier fixé par les employeurs. C'est certes important, il faut le faire, mais une organisation syndicale, elle est aussi là pour faire du syndicalisme, c'est-à-dire discuter avec les salariés des moyens d'améliorer le travail, d'améliorer les conditions de travail, de réfléchir à sa condition de salarié. Et ça, je ne sais pas pourquoi, tout le monde l'a oublié.
Vous voulez dire qu'elle n'est pas là pour co-gérer l'entreprise ?
Mais d'abord, on n'a pas les moyens de co-gérer l'entreprise en France, et encore la co-gestion à l'allemande, on pourra discuter des modalités de co-gestion à l'allemande si vous voulez. En France, en tout cas, nous n'avons aucun moyen d'intervenir sur les décisions de l'entreprise. Nous n'avons aucun moyen de, alors à part faire des remarques et donner des avis qui d'ailleurs ne sont dans la plupart des cas jamais suivis par les employeurs. C'est rarissime que les employeurs écoutent les préconisations des comités d'entreprise en matière économique. À part ça, nous n'avons aucun moyen d'avoir prise sur les décisions de l'entreprise. Et la loi, les ordonnances ne renforcent absolument pas le pouvoir des salariés représentés ou pas représentés, d'ailleurs, d'intervenir sur les décisions économiques de l'entreprise.
Bah, finalement, ça rejoint un petit peu ce que vous dites, Jean-Charles Simon, c'est-à-dire qu'il faut peut-être d'abord expliquer quelles sont les prérogatives de ces instances avant que de les réorganiser sans forcément réfléchir à ce à quoi elles servent.
Il faut en effet réfléchir à ce qu'elles doivent faire, mais je dois dire quand même que souvent l'agenda qu'a le chef d'entreprise, c'est d'abord l'agenda que lui impose la loi. La loi lui impose un énorme agenda, plus que nulle part ailleurs. La France contraint les entreprises, les deux parties d'ailleurs, à discuter d'un certain nombre de sujets de manière contrainte, obligatoire. Et ça, c'est quelque chose, si vous voulez, qui en général fait plus qu'occuper la vie de l'entreprise. Il faut bien comprendre quelque chose, pour revenir à la philosophie générale que vous évoquiez des ordonnances. La finalité de l'entreprise, n'en déplaise aux élus syndicaux, c'est pas de faire du dialogue social, c'est de créer des richesses. Et créer des richesses, ça va évidemment avec l'idée de discuter avec les salariés d'un certain nombre de choses sur l'organisation du travail, mais le dialogue social n'est pas la fin en soi de l'entreprise. Or, certains semblent penser qu'il faut en faire tellement et toujours plus plus que c'est la fin. La réalité, c'est que dans les entreprises de, par exemple, de 10 à 50 salariés, il n'y a que 7% des entreprises, dernière statistique, qui ont négocié au moins une fois dans l'année. 93% n'ont jamais ouvert une négociation dans l'année. Parce que ce n'est pas tout simplement ce que peut se permettre ou ce que peut organiser le chef d'entreprise, parce qu'il n'a pas d'interlocuteur en face. Et parce qu'en plus, il a, on y reviendra, des dispositions de branche qui s'imposent à lui, qui sont déjà tellement contraignantes qu'en général, il pose le stylo et il s'arrête là une fois qu'il les a comprises, si elles sont suffisamment intelligibles.
Alors, s'agissant justement des interlocuteurs que peut avoir en face le chef d'entreprise, il y a normalement les délégués syndicaux, les différentes instances du personnel, et puis, dans ces ordonnances, une des nouveautés, la possibilité pour les entreprises de moins de 20 salariés de négocier avec de simples salariés, et pour celles de 20 à 50 salariés, c'est un petit peu technique, mais enfin, on est obligé d'aller un petit peu dans la précision avec ce type de loi. Pour les entreprises de 20 à 50 salariés, la possibilité de négocier avec un élu du personnel, à condition, bien sûr, à chaque fois, qu'il n'y ait pas de délégué syndical dans cette entreprise. Qu'est-ce que vous pensez de cette possibilité qui est offerte, en tout cas c'est comme ça que c'est présenté, à de simples salariés de pouvoir négocier avec leur direction, Anne de Haro?
Écoutez, c'est très à la mode en ce moment de croire que des gens pas formés, spontanément, peuvent négocier ou faire de la politique. Appliqué au monde politique, vous avez vu le résultat que ça donne. Hein.
Pierre Gattaz, patron du MEDEF, dit « On peut imaginer que ce salarié élu, puisqu'il le sera, reçoive une formation définie de façon paritaire afin d'être sûr qu'il a les compétences pour négocier. Voilà. » Si même le patronat est prêt à former ses salariés...
C'est ça. C'est quoi une compétence pour négocier? Pour les compétences pour négocier, elles s'acquièrent dans le creuset du syndicalisme, là où on apprend par la réflexion collective, à traduire dans des textes qui ont une portée juridique et qui engagent, on engage tous les salariés, tous nos collègues. Donc ça ne se fait pas à la légère. Les syndicats ont un œil sur, et jettent un œil vraiment très attentif sur tous les accords qui sont négociés pour justement éviter d'écrire n'importe quoi et que ça ait des conséquences juridiques, dommageables pour les salariés, mais même éventuellement pour l'entreprise.
Et mais quand il n'y a pas de syndicat dans l'entreprise,
C'est justement...
C'est quand même mieux que rien, non?
C'est pas mieux que rien, il y a des moments, il faut s'abstenir. Il y a des moments, le progrès réside plutôt dans le fait de promouvoir le syndicat et de voir comment on peut promouvoir le syndicat et le phénomène syndical dans les entreprises et dans les petites entreprises, plutôt que de dire qu'on va le remplacer par des gens qui, comme ça, sortis de nulle part, auraient des compétences ou pourraient les acquérir très vite.
Bon, Jean-Charles Simon, je ne sais pas combien vous avez de salariés, vous, dans votre entreprise.
Moi, je ne suis pas concerné par les dispositions des plus de 10 salariés, donc je n'ai pas cette question sur y a-t-il ou pas des délégués syndicaux.
En tout cas, mais sur cette idée de pouvoir négocier un salarié qui n'a pas justement...
Il faut bien voir qu'on préserve totalement... Aujourd'hui, dans les textes qui sont proposés, les grandes constructions du droit social tel qu'il existe. S'agissant du monopole de la délégation syndicale, il est absolument pas remis en cause, puisque quand il y a délégué syndical, on garde évidemment cette prérogative exclusivement au délégué syndical. Quand il n'y a pas délégué syndical, les mécanismes sont très complexes. Entre 11 et 20, s'il y a un élu du personnel, l'employeur ne peut pas consulter directement les salariés. C'est uniquement s'il n'y a pas d'élu du personnel qu'à ce moment-là, il peut le faire.
Donc ça vous semble une bonne idée de rajouter
cette possibilité de 0 à 10.
Et c'est plutôt intéressant pour vous ou pas ?
Ça me semble intéressant, mais on oblige, faut quand même bien voir... Il faut faire confiance à l'intelligence des individus parce qu'on parle de leurs conditions de travail. À ce moment-là, c'est comme si on disait qu'ils ne sont pas capables de regarder leur contrat de travail. On parle donc d'une situation dans laquelle il n'y a pas délégué syndical, il n'y a pas d'élu du personnel, et dans cette situation, et il y a moins de 20 salariés, et dans cette situation, l'employeur consulte directement ses salariés et doit avoir la majorité, tenez-vous bien, des deux tiers des salariés pour faire adopter la norme collective. Autant dire qu'il pourrait quasiment modifier un à un les contrats individuels, donc vu le nombre d'effectifs dont on parle. Donc on est quand même dans une situation où, franchement, on ne crée quasiment rien comme espace supplémentaire par rapport à l'architecture du droit existant. Et dans toutes les autres situations, je le dis bien, pour les élus, quand il y a élu de personnel ou quand on parle des processus avec mandatement, il faudra avoir à chaque fois soit la majorité des salariés qui approuvent, soit des organisations qui sont représentatives et qui ont eu la majorité des voix aux dernières élections consultant les salariés. Donc à chaque fois, le principe majoritaire, qui en plus est renforcé dans les ordonnances, on a un principe majoritaire renforcé, là je parle des grandes, des entreprises de plus de 50 également, on a partout maintenant cette idée de majorité et le pouvoir des délégués syndicaux, là où ils existent, et c'est quand même très facile d'avoir un délégué syndical, dès qu'il y a un délégué du personnel, une organisation syndicale représentative peut le nommer délégué syndical.
Donc vous nous dites en gros, à travers ces ordonnances et ces dispositions-là, on donne davantage de pouvoir aux salariés, en tout cas on ne leur en enlève pas.
On ne leur en enlève pas, absolument.
Anne de Haro.
Alors, moi, je rebondis sur ce que vous dites quand vous dites qu'on n'atteint pas, ces ordonnances ne portent pas atteinte à des droits fondamentaux. Bon, il y a quand même encore la Constitution de 1946. Normalement, les salariés participent à la gestion de l'entreprise par le biais de leurs représentants et par les représentants du personnel. Bon. La négociation par de simples salariés pose un vrai problème juridique parce que et pose un vrai problème politique. Dans une république, normalement, personne ne représente personne sans avoir un mandat. Et le mandat, il est préalable. Là, il n'y a pas de mandat. Donc là, il y a quand même un problème. Et je ne sais pas pourquoi le Code du travail et le champ de l'entreprise seraient un lieu absolument à part où on pourrait déroger à tous les principes démocratiques, à tous les principes qui fondent la République, le système juridique dans lequel on évolue. Là, il y a quand même quelque chose qu'il faudrait qu'on m'explique. Après, il y a un autre problème. On parle de l'entreprise. L'entreprise, elle est là pour faire ceci, pour faire cela. Je trouve que parler de l'entreprise comme ça, c'est un petit peu desséchant et c'est ce qui entraîne tout le monde dans l'erreur. Les entreprises, elles ne sont pas semblables. On comprend bien qu'entre le groupe Total et mon coiffeur, on comprend bien que c'est pas la même capacité, c'est pas la même force. On comprend bien qu'il y a une diversité.
Ben alors, c'est bien pour ça qu'on va vous dire, il faut justement permettre aux entreprises d'adapter les normes en fonction de leur taille et de leur spécificité.
Voilà, et ça, c'est une erreur, parce que c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Les entreprises, là où on avait trouvé un système qui était équilibré, c'est qu'on avait trouvé une hiérarchie des sources avec un principe de faveur. Principe de faveur, il était simple, on disait, il y a une pluralité de sources et s'applique aux salariés la meilleure règle. C'était simple, on avait toujours une grille de lecture simple, facile, compréhensible pour les salariés. Là, avec le système et telle l'architecture qu'on est en train de créer, la primauté qu'on donne à l'accord d'entreprise va permettre aux employeurs de remettre en cause les autres sources de droit du travail, y compris le contrat de travail. Mais là où ça devient pervers, c'est une grande perversité, c'est que ce qu'on va organiser, c'est la domination des entreprises économiquement fortes sur le marché, sur les entreprises moins fortes. Et donc, les petits employeurs n'auront plus de capacité à décider des normes sociales dans leur entreprise.
Je suis vraiment en désaccord profond sur deux points majeurs. Le premier, c'est est-ce qu'on permet à n'importe qui de faire n'importe quoi par rapport au droit existant ? C'est absolument pas le cas. Si vous voulez, d'abord, encore une fois, je le répète, quand il y a délégué syndical, c'est le délégué syndical qui est le seul à pouvoir négocier. On parle donc des situations où il n'y a pas de délégué syndical. Ensuite, quand il y a un élu du personnel, c'est l'élu du personnel qui va négocier. Il peut y avoir un salarié qui est mandaté, ce qui existait déjà aujourd'hui dans le droit du travail. C'est pas un processus nouveau. Et ce processus, il a vécu, et d'ailleurs, il n'a pas été beaucoup utilisé. Pourquoi ? Parce qu'en général, les salariés ne sont pas intéressés par le mandatement. Donc, il y a ce processus-là. Et pour les élus, eh bien, à ce moment-là, ce n'est pas n'importe qui. C'est bien des gens qui ont une représentativité. Et donc, on parle, la seule situation où on aura des cas où les personnes ne sont ni élues, ni ont un mandat, ce sont des entreprises toutes petites dans lesquelles il n'y a ni délégué syndical, ni délégué du personnel. Donc, je ne vois vraiment pas ce qu'on retire. Et là, on demandera une majorité des deux tiers, je le rappelle, pour l'approbation d'un accord. Le deuxième point fondamental sur lequel je suis en désaccord avec ce qui a été dit, pour dire que vraiment le changement est minime, c'est qu'au contraire, et c'est à la grande satisfaction d'ailleurs de Force Ouvrière, la branche est totalement préservée dans ses prérogatives. Je pense même qu'elle est renforcée. C'est-à-dire qu'elle a 11 domaines dans lesquels il est absolument impossible qu'elle-même, même si elle le voulait, elle puisse permettre aux accords d'entreprise de déroger, et elle a d'autres domaines dans lesquels elle peut empêcher l'entreprise de déroger. Donc on a quelque chose qui boucle, qui verrouille largement le droit du travail, et qu'est-ce que va être le résultat ? Je peux déjà vous le garantir, monsieur Gardette. Il y aura extrêmement peu de consultations et d'accords qui se passeront directement dans les entreprises. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, je le répète, aujourd'hui il y a des possibilités, et les entreprises ne le font pas, parce que le code du travail et les conventions collectives sont déjà écrasantes pour elles. Donc le chef d'entreprise, c'est le dernier de ses ces soucis de rajouter une norme ou de même d'essayer de déroger à une norme. Ce n'est pas possible. La contrainte est beaucoup trop lourde. Donc en général, par exemple sur les salaires, qui est le premier sujet de négociation, la plupart des entreprises, qu'est-ce qu'elles font? Elles disent l'accord de branche à négocier, je m'arrête là, je ne négocie pas.
Alors je vous rappelle la question que nous posons ce soir dans Du Grain à Moudre. La nouvelle loi travail fait-elle du bien au dialogue social? C'est une discussion entre Jean-Charles Simon et Anne de Haro. Jean-Charles Simon qui est économiste et entrepreneur, Anne de Haro qui est déléguée syndicale CGT. Et pour revenir peut-être sur ce que vous disiez, Jean-Charles Simon, sur le fait que toutes ces dispositions-là, de toute manière, elles ne seront pas utilisées par les chefs d'entreprise parce que eux, leur projet et leur préoccupation, c'est de créer de l'activité, ça n'est pas de faire du dialogue social. Il y a quand même alors
qu'ils n'ont pas, surtout, si vous voulez, de domaines suffisamment intéressants pour aller se dire tiens, je vais adapter des choses à ma situation, à mon contexte.
Est-ce et que ça là, veut dire que, par exemple, pour vous, et enfin, je vais d'abord poser la question, si vous le voulez bien, Anne de Haro, et vous répondrez après, mais est-ce que ça veut dire que le référendum, le recours au référendum, donc, qui existe déjà dans les entreprises, mais qui là aussi fait partie des modifications qui sont faites par ces ordonnances, possibilité pour les entreprises de moins de 20 salariés de soumettre un projet par référendum sur initiative de l'employeur. Est-ce que vous, par exemple, Anne de Haro, vous craignez que les employeurs utilise peut-être de manière un petit peu trop fréquente des référendums pour faire passer des mesures contre l'avis des salariés, puisque ce sont eux qui vont voter, mais en tout cas qui a un usage abusif de ce mode de consultation.
Alors, vous vous souvenez de l'histoire de Smart? Bon, on avait bien vu que dans Smart, le vote...
Smart, il y avait un référendum pour revenir aux 39 heures, c'est ça.
Travail, hein, voilà. Augmenter la durée du travail et baisser les salaires. Bon, on s'est bien aperçu que le vote des cadres n'était pas le vote des ouvriers et que les ouvriers ne voulaient pas de cette modification. Les cadres acceptaient un petit peu plus facilement cette modification. Et voilà, l'entreprise, elle est aussi divisée. Et moi, ce qui me semble important, c'est de construire un collectif et de construire une entreprise où les gens arrivent à s'accorder. Ce que vont chercher les employeurs, c'est la discorde. C'est d'opposer les catégories de salariés entre eux pour obtenir un accord. Et donc, une fois que vous avez fait ça, vous avez une ambiance dans une entreprise qui devient délétère.
Donc ça se fait au détriment du dialogue social.
Complètement. Et quelques années après, toutes les entreprises qui ont accepté d'ailleurs de revenir, ou pratiquement toutes celles qui ont accepté de revenir sur la durée du travail et qui ont augmenté les durées de travail, on a eu un maximum de délocalisation dans les années suivantes. Mais comme la collectivité de travail s'était divisée parce que les employeurs avaient recouru à des référendums et que ça avait cassé le collectif de travail, ça avait complètement effrité les capacités d'analyse collective et de réaction collective des salariés. Et dans ces histoires-là, moi ce que je trouve gravissime, c'est que on nous dit aujourd'hui que les entreprises sont là pour produire économiquement, mais la plupart des entreprises maintenant, c'est pas ce qu'elles recherchent. Quand vous regardez, on vous dit, on vous explique, les économistes vous expliquent que les entreprises fonctionnent à 70% de leur capacité en ce moment. C'est dû à la crise, etc., etc. C'est dû aussi à un phénomène tout simple qui est la financiarisation des entreprises. Les entreprises actuellement gagnent plus d'argent en faisant des économies et notamment en faisant baisser le coût du travail plutôt qu'en produisant. Et les entreprises françaises, elles sont dans ce mécanisme-là, elles sont dans ce fonctionnement-là. Et ce que permettent les ordonnances, Macron, c'est justement d'accéder à tous les désirs des directeurs financiers. On n'en est même plus à satisfaire les DRH, on en est à satisfaire les directeurs financiers qui vont pouvoir faire baisser le coût du travail, revenir sur les accords, y compris de branche, supprimer les primes d'ancienneté, supprimer un certain nombre d'avantages, pour faire des économies. C'est
ça qui est à l'œuvre. Juste d'un mot, mais vraiment d'un mot, Anne de Haro. Et si le référendum pouvait être utilisé, par exemple, pour consulter les salariés sur les orientations stratégiques de l'entreprise, est-ce que ça pourrait vous paraître intéressant?
Alors, encore faudrait-il que les employeurs soient en capacité de formuler leurs orientations stratégiques. Je sais pas, parce que
ils doivent en avoir quand même en général. Enfin, ça fait partie de leur métier.
Non, parce que personne ne s'intéresse à cette littérature grise que sont les présentations. Moi, j'aimerais bien qu'on déballe et qu'on mette sur la table table, les rapports qui nous sont donnés en comité d'entreprise. J'aimerais bien que toute cette littérature-là soit présentée, qu'on ait un vrai débat là-dessus. C'est d'une pauvreté à pleurer, et la plupart du temps, c'est de la novlangue. On nous cache énormément de choses, les décisions ne sont jamais avouées. Les seules décisions qui nous sont avouées, c'est lorsqu'il est trop tard et qu'on nous annonce une délocalisation ou un plan social.
Bah alors Jean-Charles Simon, si je suis votre logique depuis le début de cette émission, s'agissant des référendums, vous allez me dire de toute manière ça va servir à rien parce que les entreprises ne vont pas utiliser cet outil.
Je voudrais surtout vous dire que, en fait, la disposition est là aussi extrêmement canassée. De quoi parle-t-on ? On parle des situations où il y a dû avoir négociation d'abord, que la négociation a abouti à un accord avec des organisations qui représentent au moins 30% des suffrages aux instances représentatives du personnel, mais pas 50%, qu'elles-mêmes avaient déjà la possibilité, c'était prévu dans la loi El Khomri, de demander un référendum, que elle, à ce moment-là, l'employeur, lui, n'avait pas cette possibilité. Là, on permet à l'employeur d'avoir lui aussi cette possibilité, mais uniquement dans ce cas-là. Et il faudra encore que les organisations avec lesquelles il a signé ne s'y opposent pas. Donc ça fait quand même énormément de conditions pour un nombre de cas qui seront très limités. Donc je crois que je ne parle pas de ce qui se passe dans les moins de 20. Là, je parle de la situation générale.
Et alors, ça pourrait être quoi pour vous, en tout cas, alors de manière peut-être plus abstraite,
moi, je pense que,
l'intérêt pour un chef d'entreprise d'avoir recours au référendum ?
Ce qu'il faut, c'est
dans quel cas ça peut être intéressant ?
C'est comprendre que, contrairement à ce qu'est la situation française, qui est vraiment marquée par un corporatisme et qui est pour moi une alliance très singulière, d'ailleurs, d'intérêts objectifs entre d'une part la CGT et d'autre part les grandes entreprises françaises, le CAC 40, contre les petites entreprises et leurs salariés.
C'est l'ancien directeur général délégué du MEDEF qui vous dit ça.
C'est moi qui vous le dis, parce que comment se passent les choses ? Les conventions de branche, les conventions collectives de branche et les accords de branche sont négociés par qui côté employeur ? Par les représentants des grandes entreprises. Parce que ce sont les seuls qui ont les moyens et la logistique pour être les négociateurs dans ces cas-là. Et en fait, ils négocient des choses qui rendent impossible au nom de la lutte contre le dumping social, donc qui est cher à leur interlocuteur syndical, souvent la CGT notamment, ils rendent impossible la différenciation des situations. Or, justement, il faut différencier les situations. Et c'est ça qui est le vrai drame de la situation française, si vous voulez. Alors même que tout ce qui est ordre public social, auquel il n'est pas question de déroger, est extrêmement contraignant, mais la barre déjà assez haut en France, le reste devrait être à la main des entreprises.
Mais alors ça, justement, j'ai pas très bien compris.
Quand vous regardez justement ce qui s'est passé en Allemagne au moment de la crise, pourquoi l'Allemagne a très très peu licencié et le chômage allemand a très peu augmenté à ce moment-là ? Parce qu'il y a eu énormément d'accords avec les conseils d'établissement ou d'accords collectifs. C'est des mots qui n'ont pas exactement la même signification en allemand et en français. Des notions qui n'ont pas exactement la même signification. Il y a eu énormément d'accords par entreprise pour parfois diminuer les salaires, augmenter diminuer le temps de travail diminuer encore plus la rémunération, des choses donc très dures mais qui ont été négociées avec en contrepartie des garanties sur l'emploi. C'est ça qui a permis à l'Allemagne de traverser la crise de manière très différente de la France.
Jean-Charles Simon,
qui fait la richesse d'un tissu économique et même la richesse sociale d'un pays, parce que c'est ce qui permet justement d'avoir des choses qui sont non pas figées dans un cadre extrêmement large, soit au niveau de la loi, de l'accord interprofessionnel ou même au niveau de la branche, mais qui sont fixés au plus près de l'entreprise.
Jean-Charles Simon et Anne de Haro, justement, sur cette question de la place qui est laissée aux branches dans ces ordonnances. Moi, je dois dire que j'ai un petit peu de mal à me faire un avis un peu précis là-dessus, parce que d'un côté, on peut lire les branches professionnelles sortent affaiblies de ces ordonnances de la nouvelle loi travail, et d'un autre côté, elles sortent renforcées. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, Anne de Haro ? Plus de pouvoir ou moins de pouvoir aux branches ?
Non, elles auront moins de pouvoir. Alors, d'abord
elles auront moins de pouvoir, pourquoi ?
Et sur tous les thèmes qu'elles devront aborder, les thèmes qu'elles pourront verrouiller,
elles aborder. Elles perdent du pouvoir par rapport aux entreprises qui en gagnent, en tout cas.
Oui, parce que l'accord d'entreprise, le problème, c'est qu'on fabrique un nouvel outil qui est un nouvel instrument qui est l'accord d'entreprise et qui est comme une espèce de torpille qui va pulvériser les accords de branche, la loi, les accords de branche et y compris le contrat de travail.
Donc, l'exemple que prend Jean-Charles Simon en parlant de l'Allemagne, c'est finalement quelque chose qui, du coup, pour vous, est aujourd'hui en train d'être mise en place en France avec ces ordonnances.
Alors, c'est assez particulier parce que, justement, en France, en Allemagne, si mes souvenirs sont bons, vous avez 8 grands secteurs couverts par 8 conventions collectives.
Bah déjà, il y a qu'un salarié allemand sur deux qui est couvert par une convention collective, voilà. Contre 95% France. Donc, en Allemagne, énormément de salariés ne sont pas couverts par les conventions
collectives. En France, vous avez, je ne sais plus combien, mais on a... on a 700 ou 800 conventions collectives, dont certaines sont complètement désuètes parce que les secteurs n'existent plus. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que quand on a développé les conventions collectives en France, hein, entre les années 30 et 50, ce sont les employeurs qui ont choisi le champ d'application des conventions collectives. Donc, quand on vient nous dire il y a trop de conventions collectives, c'était une volonté patronale de morceler les conventions.
Hein, c'est le corporatisme patronal, c'est l'esprit corporatiste de vouloir qu'il n'y ait absolument aucune tête qui dépasse. Ça, je suis tout à fait d'accord, mais il se trouve qu'aujourd'hui, c'est défendu par des syndicats de salariés.
Et pourquoi ils voulaient des conventions collectives et ils voulaient complètement maîtriser le champ des conventions collectives? Parce qu'ils avaient très très peur. Alors, il y a quand même un moment où... il y a des moments où on a fait un peu peur aux employeurs. 36 et après la Seconde Guerre mondiale. Résultat des courses, les employeurs qui avaient peur dans ces moments historiques-là, parce qu'il y avait eu de fortes mobilisation de salariés, c'est pour ça qu'il faut se mobiliser fortement et massivement. Donc, ils voulaient absolument empêcher que, dans une entreprise, un employeur cède trop facilement un avantage, et donc que ça fasse tache d'huile et que ça donne des idées aux autres salariés des autres entreprises de syndiquer, de faire grève, de revendiquer et de gagner des avantages, etc.
Et aujourd'hui, ce sont les syndicats qui ont peur que dans les entreprises, on aille plutôt vers du moins-disant social,
c'est pas ça, c'est que y a une vraie problématique de mise en concurrence. Et là où moi, je suis assez stupéfaite, c'est qu'il y a une disposition qui est prévue par les ordonnances et qui, pour moi, pose un problème majeur et un problème de droit fondamental. Il est dit que les conventions collectives de branche ne pourront plus être étendues qu'à la condition qu'elles ne nuisent pas à la libre concurrence. Or, le principe même de la convention collective de branche, c'est de réguler la concurrence. C'est son objet. C'est à ça que c'est utile.
Alors justement, sur ce point, Jean-Charles Simon, on est presque à la fin de l'émission.
Ça, c'est une disposition très précise. Vous savez très bien pourquoi elle est mise en place. Elle est mise en place par rapport à uniquement des tentatives absolument anticoncurrentielles qui ont été faites dans certaines branches au titre de la prévoyance collective, en voulant imposer par des clauses de désignation des prestataire unique en matière d'assurance complémentaire, prévoyance ou santé.
Non mais qu'est-ce qui va empêcher, si ça n'est plus la branche qui régule justement cette concurrence, en tout cas entièrement, qu'est-ce qui va empêcher des entreprises, pour être plus compétitives, de rogner justement sur un certain nombre d'acquis sociaux, appelons-les comme ça, parce que justement elles pourront le faire désormais.
Elles ne pourront pas, parce que la plupart des domaines, alors la branche se retrouve avec 11 domaines sanctuarisés, c'est-à-dire plus qu'aujourd'hui, avec notamment, d'ailleurs, comme par hasard, la mutualisation des fonds du paritarisme qui ne figurait pas auparavant dans la loi, la gestion de certains types d'emplois. Donc la branche est tout à fait sanctuarisée, donc on ne pourra absolument pas revenir, par exemple, sur les salaires minimums par classification, qui
donc
est quelque chose qui déjà
verrouille
totalement, je peux vous dire que pour les TPE-PME, ça verrouille déjà totalement, tout à fait,
moi,
le champ de
ça,
la négociation, la négociation de sur les salaires.
Anne Darrot nous dit qu'elle n'a pas ça.
Alors, attendez, le seul exemple qu'a trouvé la ministre du Travail elle-même, c'est la négociation des primes d'ancienneté. Alors d'abord, il faut savoir qu'il y a plein de conventions collectives dans lesquelles il n'y a pas de primes d'ancienneté, mais pour celles sur lesquelles il y en a, bon courage aux chefs d'entreprise pour aller négocier et avoir un accord majoritaire, puisque je le répète, tous ces accords doivent être majoritaires, pour aller renégocier les primes d'ancienneté. D'ailleurs, elle a dit que c'était négocier des primes d'ancienneté contre d'autres types de primes. Donc, si vous voulez, la branche, elle est largement préservée, et elle est pour moi celle qui épuise le dialogue social d'entreprise par construction telle qu'il est potentiellement ouvert aujourd'hui dans les modalités. On a ouvert les modalités, on n'a pas ouvert le champ. Comme on n'a pas ouvert le champ, on ne permettra pas de différencier. Alors que différencier, c'est la clé. Je vous donne juste un exemple. En Allemagne, ça c'est la loi qui l'a fixé, ce n'est pas les accords évidemment. En Allemagne, une entreprise de moins de 10 salariés, elle n'a pas à motiver le licenciement. J'aimerais bien savoir si les syndicats salariés français seraient prêts à ça.
Alors en France,
ce sera la conclusion. Hein.
Bon, sur la motivation des licenciements, vous le savez bien, c'est impossible. On a signé la convention de l'OIT,
on a eu bien tort. On est un des rares pays européens à l'avoir fait.
Toute l'intelligence de la France d'avoir signé. Et évidemment, quand un chef d'entreprise prend la décision de licencier,
en général, c'est la conclusion. C'est là que le débat commence un petit
peu. Il doit au moins savoir quel est le motif et être en capacité de l'énoncer. Sans ça, je ne vois pas à quel titre. D'ailleurs, il dirigerait une entreprise.
Vous voyez. voilà. Il y a de la différenciation.
Mais l'Allemagne n'est pas un modèle. L'Allemagne est une société très dure où la place des femmes est très difficile. Et donc, je ne crois pas que ce soit un modèle absolu. C'est aussi un pays où il y a beaucoup de pauvreté.
Les États-Unis, le Royaume-Uni.
Et nous, ce qu'on veut vraiment éviter, c'est que la couche moyenne du
salariat. Parce que là, il n'y a pas de motivation non plus,
hein. Oui. Que la couche moyenne du salariat soit appauvrie par ces nouvelles dispositions et par la remise en cause d'un certain nombre d'avantages salariaux qui permettent aujourd'hui aux gens de vivre décemment.
Les pays où le taux de chômage est bas, c'est les pays dans lesquels il y a beaucoup de différenciation au profit des petites entreprises, et c'est ce qui permet, paradoxalement, aux salariés d'avoir le meilleur pouvoir de négociation.
C'est un débat qui va continuer, je vous le rassure, donc on aura l'occasion peut-être de vous réinviter l'un et l'autre. Merci en tout cas d'avoir participé à cette discussion, Anne Doirot et Jean-Charles Simon. Discussion préparée par toute l'équipe du 1, Fanny Richer, Antoine Tricot, Virginie Leduo, Antoine Dulster et Eva Pellerin. Émission réalisée par Véronique Villa, avec à la prise de son Emmanuel Morse-Duncan. Demain, faut-il bunkériser les villes face aux catastrophes naturelles? Ce sera la question que nous poserons dans Du Grain à Moudre. Mais demain est un autre jour.